Amen. Rends-nous purs, Seigneur, dans nos intentions, nos pensées secrètes, que Dieu seul voit d'ailleurs. Rends-nous purs. Parce que Dieu ne regarde pas à l'apparence, il regarde au cœur. Et c'est ce cœur qui est la source des apparences. Si le cœur est bon, alors si la source est bonne, la rivière sera bonne, non ? Je regarde avec vous ce matin la suite de la méditation de dimanche. Je ne vous pose pas la question sur quoi ai-je parlé dimanche. Sur la maturité, être adulte en Christ. Eh bien, je vous invite à continuer parce que je pense que c'est un sujet très important. Parce que dans quelques jours, nous allons changer de lieu de culte. Et tous ces gens qui vont venir ont besoin de voir des chrétiens forts, joyeux, vrais, amour, adultes. Non, n'est-ce pas ça? Les pierres, le parquet, le chauffage ne convertissent personne. Sinon, on en mettrait partout. Le Seigneur passe à travers le bien de nos vies. Je vais lire avec vous dans Éphésiens. On va lire deux petits textes dans Éphésiens, chapitre 4, verset 13. Oui, donc, parlons de cette maturité, cette grandir, grandir. S'il y a un enfant resté enfant, 40 centimètres toute sa vie, ce serait affolant, épouvantable. On grandit. Parfois, les parents le regrettent un peu. « Ah, tu es plus le petit que j'ai connu. » Mais enfin, c'est normal de grandir. Et je crois que dans la vie chrétienne, il faut grandir. Il faut toujours aller plus haut et plus loin. Je repense à Israël dans le désert du Sinaï. Pour moi, le désert, 40 ans quand même, ils ont redoublé leur classe. Je crois que c'était l'école de la maturité. Parce que le Seigneur ne veut pas être servi, entouré par des gens qui ne pensent qu'à eux, qui grincent des dents pour un rien. Et ça n'a pas été facile dans le désert. Ils ont appris à faire confiance, à espérer, à attendre, à s'aimer. C'est pourquoi il y a des commandements. Pour ne pas que toutes les vieilles choses de l'Égypte là restent. Il fallait mettre l'Égypte de côté et puis commencer une vie nouvelle. Mais regardez les apôtres dans les évangiles. C'est l'école de la maturité. Au début, je les trouve parfois un peu épouvantables, les apôtres. Permets que je sois assis à ta droite dans ton royaume et moi à ta gauche. Et nous alors? Permets que le feu du ciel descende sur ce village épouvantable qui ne nous a pas fait un bon accueil. C'est vraiment n'importe quoi, ça. Alors, ils ont appris avec Jésus-Christ à grandir dans l'amour et la patience. Je crois que c'est la même chose pour nous. Que Dieu nous aide à vraiment grandir, à apprendre. Maintenant, quand nous serons là-bas et encore après, on n'arrête pas de grandir. Chez nous, au bout d'un moment, on ne grandit plus. Je dirais même qu'on diminue, non ? Les personnes âgées le savent, on diminue un peu. Mais dans la foi chrétienne, on grandit toujours. On apprend toujours, on n'aime jamais assez, on n'espère jamais comme il faut. Je lis avec vous Éphésiens, chapitre 4, verset 13. Donc, c'est toute une phrase de Paul, je vais la couper en cours de route. « Que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, c'est-à-dire mature, adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leurs ruses dans les moyens de séduction. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons, nous grandirons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, toute l'Église, bien coordonnée et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Amen. Grandir, c'est avoir des sentiments fermes qui ne changent pas au changement. C'est avoir une foi ferme qui ne dépend pas des événements parfois contraires. Je sais en qui je crois. C'est savoir juger, apprécier les frères et sœurs, savoir apprécier les temps que Dieu nous donne. C'est avoir de la réflexion. Si nous ne grandissons pas, nous allons rester des enfants. Et quand on est un enfant, on ne pèse pas lourd. Et on est vite secoué, emporté à la dérive dans tous les courants du monde, dans les idées nouvelles religieuses. Toutes les nouveautés, on les attrape comme la grippe actuellement. Frères et sœurs, nous devons avoir, pas seulement parce que nous serons vus dans la ville, mais parce que le Seigneur nous verra aussi. Nous devons avoir une foi responsable, une foi qui répond à Dieu. Une foi qui dit oui, Seigneur. Comme Abraham, comme Moïse. Une foi qui dit, Seigneur, je suis toujours avec toi. Une foi adulte. Quelqu'un me disait, maintenant je suis adulte, je fais tout ce que je veux. C'est ça l'adulte? Une foi adulte, c'est pas une foi qui n'écoute personne, qui choisit ce qu'il faut croire et ne pas croire, accepter et rejeter. Ça s'appelle une foi bricolée, une foi de bricoleur. Et cette foi-là, qui dit « moi je crois ça, moi je crois pas ça », cette foi-là, elle est prête à croire le père du mensonge. Parce qu'il se déguise comme un ange de lumière et il essaiera de m'attraper et de vous attraper. Alors que notre foi soit adulte, ferme, solide. Amen. La foi adulte, la foi qui grandit. C'est le courage de suivre le Christ avec son Église. Et parfois, quand on suit le Christ sous la croix, il y a un décalage avec le monde. On n'est plus dans la ligne du monde. On est un peu solitaire par rapport au monde. Mais on est solidaire dans l'Église. La foi adulte, c'est la foi qui dit, même si entre nous, il y a forcément des différences humaines, je reste, je suis là, je suis le Seigneur. La foi adulte, elle n'est pas conformiste. On n'est pas comme le caméléon qui change de couleur, ça dépend où il se pose. La foi adulte, c'est une foi qui ne se conforme pas aux idées du monde. La foi adulte, elle ne regarde que la Bible. Amen. Elle ne regarde que l'enseignement de Jésus. Et elle se réforme sans cesse. Parce qu'on n'est pas arrivé à la perfection. Hein. On se réforme sans cesse. Les premiers réformateurs, il y a 5 siècles, disaient « L'Église se réforme toujours pour ressembler à la parole de Jésus. » Pas facile, attention. Hein. C'est pas facile parce que la foi adulte, c'est forcément le chemin étroit. L'autre jour, je voyais quelqu'un qui prenait l'escalateur à l'envers. L'escalateur descendait, puis lui, il remontait. Il ne chômait pas, je peux vous le dire. Ça, je crois que c'est la foi adulte. Tout le monde descend, puis nous, on remonte. On est comme le saumon qui remonte la rivière pour aller là-haut, dans les hauteurs, et c'est pas facile. Vous l'avez déjà vu ? À la télévision, bien sûr. Il saute dans l'eau, il remonte le courant. Ça, je pense que c'est la foi adulte. Courir après les nouveautés du monde, et aujourd'hui, dans le monde spirituel, il y en a beaucoup. Je crois, d'après la parole de Dieu, c'est une foi infantile. Ce n'est pas le souffle du Saint-Esprit. On écoute les voix contraires, les voix du mercenaire, et non pas la voix du bon berger. Mes brebis écoutent ma voix et elles me suivent, même si elles sont peut-être seules dans le monde. Elles me suivent. Quelqu'un qui recherche toujours la bénédiction pour lui, quelqu'un qui recherche pour lui toujours une vie comblée, à être toujours prospère, riche, magnifique, c'est pas la foi adulte. La foi adulte, elle doit être capable de vivre au milieu de certaines détresses, des souffrances des autres, des maladies. La foi adulte, elle reste ferme comme une lampe dans la nuit. La foi adulte, elle n'est pas repliée sur elle-même en disant « je sais », elle fait des œuvres vers les autres. Vers ceux qui sont accablés de souffrances, de chagrin, de deuil, de solitude, la foi adulte, elle s'engage. Elle s'engage pour l'Église. La foi adulte, c'est comme une colonne inébranlable dans l'Église. Où il y a des enfants, il y a des chercheurs dans l'Église, de chercheurs de vie, de sens, il y a des gens nouveaux qui viennent, il y a des souffrants, il y a des disciples. Mais dans l'Église, ces gens-là ont besoin d'une colonne, un modèle. Ils ont besoin d'un repère, d'encouragement, d'un appui. La foi adulte, elle est là pour dire « je suis avec vous ». Ce que vous voyez en moi, ce que vous écoutez en moi, pratiquez-le, je suis avec vous, il faut être un repère. Quel était le problème des vierges folles ? Je sais ce que vous allez me dire. Le problème des vierges folles, c'est le manque d'huile. Ben, je ne sais pas. Pour moi, quand je relisais encore l'évangile de Matthieu, chapitre 25, je voyais les vierges folles, les vierges sages, et je voyais que le problème des vierges folles, c'est qu'elles n'étaient pas là quand Jésus est venu. Elles n'étaient pas là, elles étaient parties chercher de l'huile. Est-ce que vous pensez que le maître les aurait mises à la porte parce qu'elles n'avaient pas assez d'huile ? Mais elles n'étaient pas là. Et je pense que pour nous, la foi adulte, la foi mature, c'est la foi d'hommes et de femmes qui sont là pour attendre le Maître. Amen. La foi adulte, je crois qu'il nous faut la demander au Seigneur. La foi adulte, nous l'avons lu ensemble, c'est vivre la vérité dans la charité. Donc pour les autres, on vit notre foi avec les autres, on vit notre foi pour les autres, professant, pratiquant la vérité dans la charité. Si tu n'as pas la charité, j'ai du mal à écouter ta vérité. Voilà ce que les gens vont nous dire. Et si vous avez la vérité, vous allez me montrer votre charité. C'est les œuvres et la foi. Amen, c'est ça. Hein. Vérité et charité sont inséparables. Je l'ai dit au commencement, c'est la source et la rivière. La rivière ne peut pas dire à la source, « Elle m'embête celle-là, j'en veux plus. » Puis la source ne peut pas dire à la rivière, pousse-toi de là. Elle est là, ils sont liés ensemble. La source, c'est la vérité. La rivière, c'est la charité. La foi produit la charité. Quand on connaît le Christ, on lui ressemble, on l'aime et on aime comme lui. Vous êtes d'accord avec cela? Ainsi était Jésus. Il était puissant, disaient les pèlerins, les disciples d'Emmaüs. Il était puissant en parole et en œuvre. Il disait des vérités et il les pratiquait. Il disait les paroles de Dieu et il les appliquait aux gens qu'il rencontrait. La charité, c'est la preuve de la vérité en nous. C'est le signe que Dieu habite en nous. Si je vous dis que Dieu habite en moi et que je casse tout et que je vous fasse du mal, je vous fasse pleurer, je vous vexe, je vous pique, vous allez me dire, quel est ce Dieu-là? Ce n'est pas notre Dieu. Si nous n'aimons pas nos proches, si nous n'aimons pas les autres, surtout les frères et la sœur en la foi, je pense que notre rapport avec Dieu sera difficile. Parce que celui qui n'aime pas son frère, il ne sait pas aimer Dieu. Il dit qu'il aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu, mais il ne sait pas l'aimer comme il faut. On peut toujours dire qu'on aime quelqu'un, mais il faut lui montrer. Et celui qui n'aime pas son frère, il ne sait pas aimer Dieu. Si par exemple quelqu'un n'aime pas du tout vos enfants, il a de la haine pour vos enfants, il est critique, il les trouve abominables, est-ce que vous pensez qu'il vous aime? Si vous m'aimez, vous devriez aussi aimer mes enfants. Ils sont peut-être pas, enfin, c'est forcément marrant, mais enfin, c'est quand même mes enfants. La maturité. La maturité permet de grandir vers le Christ. J'aime bien le mot grec, c'est vers le Christ. On n'arrête pas de grandir. On avance toujours à sa ressemblance. Il faut s'aider dans la maturité. Amen. Il faut s'encourager. L'apôtre dit, consolez-vous les uns les autres, priez les uns pour les autres, supportez-vous les uns les autres, ayez de la patience. Je pense qu'il faut s'aider. Parce que la maturité, on a encore du travail à faire, non? On n'est pas prêt, hein? On ne sera jamais prêt. Mais la maturité, ce qui est étonnant, c'est que ce sera à la stature du Christ. À la stature, on va être à sa taille. Il nous faut un amour de la carrure de l'amour du Christ. Là, je vous décourage, non? Pas trop. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. La carrure du Christ. Il y en a, ils montent sur une taupinière, ils se disent, oh, je suis au sommet. Et le Christ dit, le sommet, c'est l'Himalaya. Allez, bon courage, mon frère. Bon, je prends un autre texte. C'est dans Éphésiens, toujours, chapitre 3, verset 16. L'apôtre Paul, il a toujours des phrases un peu longues. Alors, je coupe les phrases. C'est terrible. Je suis allé une fois dans une convention européenne en Suède. Puis quand le pasteur parlait un petit peu trop, quand les intervenants parlaient trop, on entendait sur un micro, ting, le pasteur, pouf, ils arrêtaient tout de suite. Il ne finissait même pas sa parole. Pouf. J'ai dit, ça alors, ils sont forts. Hein. Chez nous, ça continue. Alors, je vais couper un peu l'apôtre Paul, vous voulez bien? Bon. Éphésiens 3.16, ah, j'aime bien les 3.16. Vous vérifierez les 3.16 du Nouveau Testament, vous en verrez des belles perles. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié, voilà le mot que je retiens, par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et le dernier verset, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, on le dit ensemble, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Pas une génération, mais privée de l'amour de Dieu. Amen. Fortifié. La maturité, c'est être fort. Pas gringaler. On a déjà ça dans 2 Corinthiens. Si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Pas se fier aux apparences. J'ai été visité combien de fois des personnes âgées. Apparemment, ils ne se redressaient pas facilement, ils prenaient pas les mêmes goûts que dans leur jeunesse, ils ne voyaient plus si bien, ils n'entendaient plus si bien, mais quand ils me parlaient, je ressortais tout lumineux. Parce qu'ils apportaient quelque chose. L'homme intérieur se renouvelle. Fortifié par son esprit. Je vais vous dire de tout mon cœur, l'homme intérieur qui est en nous, votre esprit, vos pensées, vos sentiments, doit devenir fort, enraciné, habité, résistant. Ne pas s'arrêter à la première épreuve, ne pas s'arrêter à la première dispute, comme dans un couple. C'est l'homme qui disait, un jour il y a eu une petite dispute, une fois, je ne compterai pas au-delà de 3, deuxième petite dispute, 2 fois, après c'était fini, mais c'était très tendu, mais l'amour lui ne s'arrête pas. Amen, vous êtes d'accord? Il continue. Il faut qu'il soit fort. Résistez-lui au diable avec une foi ferme. Dis, je connais mon Dieu, je connais la parole. Et à l'occasion, je vais y revenir ce soir. Il y aura des adversités. Quand on obéit au Seigneur, on marche sur les vagues comme Pierre. On marche sur les vagues de l'adversité. On ne peut pas obéir à Dieu sans que le diable rugisse, vous envoie 1000 flèches. Mais Dieu nous fortifie. Regardez Pierre qui marche sur l'eau. Dieu nous fortifie, Dieu nous rend capables. Et Dieu nous dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. La faiblesse intérieure est un grand problème aujourd'hui. Des gens changent d'église, des gens changent de mari, des gens changent de femme. Ils ne changent pas d'enfant quand même, mais pas loin. Et la faiblesse intérieure, elle touche aussi l'église. Et quand le diable, parce qu'il faut parler quand même de ça, quand il frappe à notre porte en nous présentant des convoitises, je peux t'apporter quelque chose, c'est pas très cher. On ne dit pas non tout de suite. Parce qu'aujourd'hui, si on est faible intérieurement, on dira comme Adam l'a peut-être dit, Adam et Ève, Dieu ne nous suffit plus. Vous serez comme des dieux. Dieu n'est pas suffisant. Que Dieu nous donne sa force. Amen. La force, ça ne veut pas dire l'autorité, la dureté, on tape du poing. C'est pas ça, c'est la force contre le diable. Amen. Et la force qui nous tient ferme. Notre force intérieure, c'est être capable de vivre pour le Christ en toutes circonstances en nous. Dans la bonté, la joie, la générosité. C'est vraiment se connaître, c'est ça. On ne se connaît pas bien soi-même. Savez-vous que l'Esprit de Dieu habite en vous, dira Paul ? Ah, on ne savait pas. Ah, on ne savait pas. Oui, savez-vous ? Ne savez-vous pas que l'Esprit de Dieu habite en vous ? On ne se connaît pas assez. La maturité, c'est se connaître. L'apôtre Paul, il disait, « Je le sais, ce qui est bon n'habite pas en moi. » Il était direct. Hein ? Mais je crois qu'il faut avoir cette honnêteté. Et si on connaît ses péchés, si on connaît ses faiblesses, ça nous permettra d'être indulgents avec les égarés et les faibles. Parce que ceux qui sont supérieurs à tout écrasent tout. Et il faut se considérer comme moindre que les autres. Vous êtes prêts à continuer ? La maturité, c'est comprendre, se comprendre et comprendre le plan de Dieu pour nous. Sinon, nous restons pauvres, limités, sans envergure, cherchant nous-mêmes, toujours pour nous-mêmes. Combien de fois des gens nous ont dit « j'ai eu un bon culte, j'ai pris mon culte ». Mes frères et sœurs, le culte, c'est donner à Dieu, c'est donner aux autres, c'est être là pour les autres, c'est apporter du bonheur aux autres. Dans un culte, il faut que tout le monde reparte avec la joie dans le cœur. Amen. Paul dit dans ces textes que nous avons lus que le Saint-Esprit nous fait connaître l'amour du Christ à notre cœur. Il nous révèle l'amour du Christ. On l'a lu tout à l'heure, « Vous connaîtrez que je suis en vous et que vous êtes en moi. » C'est ça, hein, connaître l'amour du Christ. Pour apprendre à donner, pour apprendre à se donner. Vous vous rappelez de Jonas ? Quel homme immature ! Pourtant, c'est un prophète de l'Éternel. Quand il était dans le ventre du poisson, vous vous rappelez sa prière ? Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Oh, il y allait là. Oh, une prière magnifique. Et cette prière, je dis Amen, parce qu'elle est vraie, elle est juste. Mais il est incapable de prier pour Ninive. Vous n'avez pas vu le petit défaut ? Incapable de témoigner à Ninive. Incapable de se donner pour Ninive. Il préfère mourir. Il est fou, hein ? Il préfère mourir. Il a eu pitié de son petit ricin, là. Il a eu pitié de son petit jardin. Il n'avait aucune pitié pour Ninive. Ce n'est pas un manque de maturité, ça ? On a plus pitié de sa voiture que de son voisin. Jonas savait que Dieu était miséricordieux. Il le dit, je savais que tu étais miséricordieux. Je savais que tu es lent à la colère, riche en bonté, que tu te repens, que tu sais changer d'avis. Mais Jonas, lui, il est sans pitié, il ne change pas d'avis, je n'irai pas à Ninive. Et Dieu dit, moi, je sais changer d'avis. Est-ce que nous savons changer d'avis ? Connaître l'amour du Christ. Il faut le connaître avec tous les saints, dira l'apôtre. Nous le connaissons avec les saints, pas sans l'Église, pas contre l'Église, pas à côté de l'Église. On connaît, Dieu nous révèle l'amour du Christ avec, dans l'Église, parce que les frères et sœurs de l'Église nous apportent quelque chose de l'amour du Christ. Amen. Et parce que les frères et les sœurs qui sont dans des peines et des chagrins et des douleurs, eh bien, ils font appel à notre amour pour eux. Et l'amour du Christ, ça se vit, ça se connaît, ça s'expérimente dans l'Église. Vous êtes d'accord avec moi ? Dans l'Église. Tout seul devant Internet, qu'est-ce que... Vous êtes parfait, là. Alléluia ! Mais vous n'apprenez rien. Parce que être le culte, c'est pas seulement regarder un écran, c'est être avec les autres, c'est un petit peu se tenir la main et puis chanter ensemble et prier ensemble. Amen. Je conclue. La maturité. Je crois que la maturité, c'est accepter l'inconnu de Dieu. Seigneur, je ne sais pas quel sera mon avenir, mais je te fais confiance. vous rappelez Joseph, le Joseph du Nouveau Testament, qui apprend que sa fiancée est enceinte. À l'époque, ça ne pardonnait pas. Et l'ange qui lui dit, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Joseph a pu dire, mais qu'est-ce que t'attends de moi, Seigneur? Mais je n'y comprends plus rien, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça, Joseph, et on ne reverra jamais ça. Il y a de l'inconnu avec Dieu, non? Il y a une part d'inconnu, et pour nous, il nous faut une part de foi. La maturité, c'est ça. On va bientôt changer, je ne sais pas tout, je ne maîtrise pas tout, je ne vois pas tout. Je vois le bateau, mais je ne connais pas la mer qui est devant nous, l'océan, mais je vois le bateau. Je me dis, Seigneur, si tout le monde est bien à sa place, le bateau va prendre l'eau, là, il va partir, et puis on sera tous heureux ensemble. Amen. L'inconnu. La maturité, c'est tout risquer pour Dieu. Un oui définitif. Je ne vais pas refaire toute l'historique. Quand nous avons commencé cette aventure avec la nouvelle Église et tout ce que ça représente, j'ai dit un oui définitif au Seigneur. Oui, Seigneur. Quoi qu'il arrive. Ouh, on n'a pas bougé, mais c'était difficile. Mais le oui, il est définitif. Dans la maturité, on ne joue pas. On ne dit pas peut-être ben oui, peut-être maintenant. Je suis normand, je sais comment ça se prononce. On ne se retire pas comme on veut. On dit oui pour toujours. J'aime bien l'apôtre Paul dans les Actes des Apôtres. Il dit, enchaîné par le Saint-Esprit, étonnant, hein, lié par le Saint-Esprit, je vais à Jérusalem sans savoir ce qui m'attend. Il allait passer un mauvais quart d'heure. Hein. Je vais à Jérusalem lié par l'Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit avait mis dans le cœur de Paul cette décision et que le Saint-Esprit dirigeait l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul, il n'a pas dit « Non, Seigneur, j'irai pas, c'est invivable ce que tu me demandes. » La décision d'aller à Jérusalem ne dépendait pas de Paul, mais de l'impulsion du Saint-Esprit. C'est ce que j'ai vécu un peu. Il nous faut de la maturité, frères et sœurs. Même dans la mission de la ville de Rennes ou d'ailleurs. Vous vous rappelez Jésus à Samarie? Ils ont laissé Jésus tout seul sur le puits de Jacob, là. Et puis ils sont partis chercher des sandwichs. Hein, vous vous rappelez? Jean chapitre 4. Ils n'ont pas dit un mot aux Samaritains sur Jésus. Et quand ils sont revenus, ils ont vu Jésus qui parlait avec une femme samaritaine en plein midi, de mauvaise réputation. Avec ça, pouf, on ferme tout, non? C'est trop pour nous. Mais la maturité, c'est s'ouvrir. S'ouvrir à cette femme qui ne tient pas dans la vie, qui est malheureuse. Vous pouvez aller chercher vos sandwichs, mais enfin, pensez à elle quand même. Frères et sœurs, nous ne sommes pas sauvés du péché. Pour rester des gens de querelle, des gens égarés, des gens sans intelligence. Nous sommes sauvés du péché pour grandir dans l'amour du Christ. Amen. Car Dieu veut avoir à sa table et dans son service des hommes, des femmes qui ressemblent au Christ. Non? Transformés à sa ressemblance. Demandons que le Seigneur nous transforme et que nous pratiquions la vérité dans la charité. J'aime bien l'apôtre Paul quand il dit « Autrefois, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. » Ben oui, c'est vrai, comme vous et moi. J'ai fait disparaître ce qu'était de l'enfant. Maintenant, je suis adulte dans le Christ. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Pour grandir, il faut bien manger, non? Combien de fois ma mère m'a dit « Mange ta soupe si tu veux grandir. » Oui, il faut manger la parole du Seigneur. Il faut écouter. écouter aussi les autres. Écouter Dieu. Un enfant qui n'écouterait pas, qui serait sourd, ne grandirait pas. Il faut être amour les uns pour les autres. Je vous ai raconté l'autre dimanche des enfants dans un orphelinat aux États-Unis privés de tout amour et qui mouraient tous parce qu'on ne vit pas seulement avec du lait et du pain, mais avec de l'amour les uns pour les autres. Pour que nous ne mourions pas, aimons-nous les uns les autres. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Aujourd'hui, notre prière, c'est fais-nous grandir, Seigneur. Fais-nous grandir dans nos sentiments, notre engagement pour l'Église que tu aimes par-dessus tout, dans tes œuvres et dans les souffrances qu'elle peut aussi traverser. Fais-nous grandir pour que nous soyons dignes du Sauveur qui a donné son sang et son corps pour sauver l'Église. Nous ne voulons pas être contraires à cette grande mission du Christ. Nous ne voulons pas faire tâche devant cette grande mission du Christ. Nous voulons te ressembler, Seigneur. C'est mon espoir suprême. Amen. Bénis-nous ensemble. Amen.